Vous écoutez IDFM, il est 10h.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Écolo d'IDFM Radio, Mission Verte. Chaque jeudi de 10h à 10h30, je suis Laurence. Vous pouvez nous écouter sur le 98 de la bande FM, sur idfm98.fr. Alors au programme de ce jeudi 2 février, un invité assez exceptionnel, l'auteur voyageur Alexandre Poussin, qui va nous parler de cette incroyable expérience qu'il vit depuis de nombreuses années, d'un voyage solidaire, de trek à travers l'Afrique, à travers l'île de Madagascar, que ce soit en compagnie d'autres voyageurs ou en famille. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site madatrek.com où vous pourrez d'ailleurs retrouver tous les ouvrages déjà édités par l'auteur et sa compagne, et aussi toutes les manifestations qu'il propose, toutes les actions solidaires qu'il propose, notamment au bénéfice des habitants, de la faune, de la flore de Madagascar. Puis dans une seconde partie d'émission, eh bien, on parlera de l'actualité régionale autour de l'environnement, de la préservation de la biodiversité ou du développement durable. Encore merci à vous pour votre fidélité aux ondes, merci à Francky pour la technique. On se retrouve juste après ça avec notre invité Alexandre Poussin. A tout de suite. Bonjour Alexandre Poussin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre parcours, mais aussi de toutes les initiatives que vous proposez sur le développement durable, sur la préservation de la biodiversité, notamment dans un endroit du monde qui nous est cher à tous, l'île de Madagascar. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous, votre couple, hein, parce que vous formez vraiment une belle équipe, Sonia et vous, dans ce parcours de vie qui vous accompagne depuis de nombreuses années?
Eh ben, je suis écrivain voyageur. Je me suis lancé sur les chemins du monde avec Sylvain Tesson. On a fait notre premier voyage ensemble, le tour du monde à bicyclette, qui a donné lieu à un livre qui s'appelait On a roulé sur la Terre. Ensuite, on a repris un cycle d'études, lui en géographie et moi en sciences politiques. Et on est reparti dans l'Himalaya, faire un livre qui s'appelait La marche dans le ciel. On a traversé tout l'Himalaya à pied, tous les deux, Sylvain et moi, du Bhoutan au Tadjikistan, pour prendre connaissance du phénomène himalayen dans sa diversité nationale et en fonction des altitudes aussi. C'était extraordinaire. Et on est revenu avec un film. Et à l'issue de quoi, Sylvain et moi, nous sommes devenus présentateurs du magazine Montagne sur France 3 pendant 2 ans. Et je me suis marié avec Sonia et on est parti ensuite en grand voyage de noces avec Sonia, traverser toute l'Afrique à pied. Ça a donné lieu à Africa Trek, du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au Mont des Béatitudes en Israël, qui est la fin du rift africain qu'on a suivi intégralement, dans les pas de l'homme, dans les traces de nos origines, le berceau de l'humanité, les sites de fouilles paléoanthropologiques, et ça a donné lieu à Africa Trek, notre grande histoire. Et là, on revient de Madagascar, où en famille, là, cette fois-ci, avec nos deux enfants, on fait le tour du pays. On a filmé 16 fois 52 minutes de documentaires, et énormément de documentaires étaient tournés justement sur la conservation de l'endémisme, de la faune et de la flore des forêts primaires en danger de Madagascar.
Alors on peut dire, hein, vous faites du tourisme écolo à la rencontre justement des gens du cru, hein, des locaux. C'est vraiment une démarche très personnelle qui est en phase avec des valeurs qui sont assez à tendance en ce moment, mais qui, quand vous avez commencé, c'était plutôt le voyage de masse, alors que vous, au contraire, hein, c'est un voyage proche des gens.
Depuis le début, moi, la sobriété heureuse, c'est quelque chose qui m'anime. D'ailleurs, j'avais rencontré Pierre Rabhi à l'époque où il n'était pas du tout connu, et parce qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, la même passion pour le réel et la sobriété. Ce tour du monde à vélo, on l'avait fait avec 1000 euros en poche, on a fait le tour avec, hein. Et donc c'est-à-dire qu'on a accepté de vivre pauvrement, simplement, joyeusement, et on était très heureux parce qu'on n'a pas de contraintes et pas de dépenses, en fait, c'est la condition de la liberté, la sobriété. Et donc là, pareil, en charrette avec nos zébus, on était indépendant du point de vue énergétique. On avait un panneau solaire sur le toit de notre charrette, donc on avec une batterie à bord, et on pouvait recharger tout notre matériel vidéotechnique, parce qu'on était là pour travailler aussi. On est réalisateurs de documentaires, de films. On avait un drone, on avait une caméra, on avait des petites GoPro pour filmer sous l'eau. On avait des caméras. On a porté la lumière dans les villages qui n'en ont pas. Les villages de Madagascar sont pas électrifiés du tout. Donc on avait de l'électricité aussi pour eux parce qu'ils ont des téléphones et il fallait qu'ils puissent recharger leur téléphone. Donc voilà, on avait pour l'eau, on avait des filtres. Donc on n'avait pas d'eau courante, mais on n'a jamais manqué d'eau. On filtrait l'eau. Donc on vivait à 4 dans 4 mètres carrés. Hein, on a vécu à 4 dans 4 mètres carrés pendant 4 ans dans une tente. Et on a été très heureux, on a manqué de rien puisqu'on avait l'essentiel.
Voilà, c'est ça, c'est aussi un modèle hein, pour celles et ceux qui pensent que le tourisme, c'est forcément les gros avions, les gros hôtels, le buffet à volonté. Non, il existe aussi un tourisme différent qui en plus apporte un bonheur et puis des rencontres formidables, hein, comme vous le rappelez.
Évidemment, parce que là, forcément, quand on prend le temps, la clé, en fait, c'est le temps. Pourquoi les gens vont s'entasser dans les hôtels? C'est parce qu'ils prennent leur RTT pendant une semaine à l'autre bout du monde, ce qui maintenant est vraiment un crime écologique et un crime moral, éthique. En revanche, aller passer un mois, deux ans, trois ans dans un pays, c'est pas parce que il y a ce problème de carbone et de changement climatique qu'on va arrêter de voyager. Mmh. Il faut voyager à l'ancienne, voilà. À la voile, partir en train, partir à pied, partir à vélo, ce que les Anglais appellent les fair means, les moyens naturels. Évidemment qu'on prendra toujours des avions, mais il faut les prendre à bon escient et il faut voir moins de choses, le voir plus longtemps, arrêter la bougeotte, quoi, et choisir ses voyages à bon escient. Il faut que ça ait du sens, il faut que le voyage et le déplacement de soi aient du sens. Alors, aller à Madagascar, se pencher sur le sort des espèces endémiques en voie de disparition, et y consacrer 4 ans de sa vie, ça a du sens. Aller faire un voyage humanitaire pendant 1, 2, 3 mois, moins d'un mois, effectivement, ça pose question. Mais partir plus d'un mois et avoir un réel impact sur le monde, ce qu'on va faire sur place, construire une école, apprendre de nouvelles méthodes agricoles, ou sauver une forêt, ou protéger une espèce, etc., ça a du sens. Vous voyez, on va pas non plus s'empêcher de voyager complètement.
Oui.
Il faut juste que le voyage soit corrélé avec,
avec
un supplément d'âme et une quête de sens.
D'ailleurs, on peut découvrir sur votre site madatrek.com toute votre activité, et notamment les actions financées. Et là, c'est formidable, parce qu'on peut découvrir tout ce que vous avez amené, tout ce que vous proposez aux gens qui souhaiteraient donner. Alors notamment, vous proposez des projets comme le nettoyage de la forêt de Berenti, proposez d'aider certaines communautés avec des projets sociaux, à la fois au bénéfice de la faune, de la flore, mais aussi des habitants, hein, des locaux.
Ah ben, quand la nature souffre, quand les hommes souffrent, la nature souffre. Donc on vit à Madagascar, ils sont en lien avec la nature directe. Donc plus les Malgaches souffrent, plus la nature disparaît. Donc on ne peut pas s'intéresser qu'à la nature. Il faut aussi s'intéresser à l'aspect social des gens qui ont besoin de vivre aussi. Donc on a des programmes de reboisement, on a beaucoup de cantines scolaires. Alors les gens nous disent, bah oui, nourrir des enfants, ça ne sert à rien. Bah, excusez-moi, effectivement, c'est un tonneau des Danaïdes, c'est sans fin, mais c'est un devoir absolu de pas laisser ces gens en crise alimentaire permanente. Donc on le fait pour qu'ils aient accès à une éducation et qu'ils puissent eux-mêmes prendre en charge l'avenir de leurs propres écosystèmes.
Et c'est formidable parce qu'on découvre des dizaines et des dizaines de projets financés, hein, qui sont donc en lien avec les populations locales et aussi donc avec la nature, l'environnement.
On a fait ça en marchant. Tout en filmant, tout en marchant, tout en documentant, tout en rencontrant, on s'est rendu compte qu'il y avait toutes ces détresses. Et depuis notre charrette, avec notre panneau solaire, notre clé 3G, notre ordinateur, on a lancé ces financements participatifs. Mmh. Et les Français ont été extraordinairement réactifs. Ceux qui nous suivaient là sur les réseaux ont donné 20 euros, 10 euros, 100 euros et ont contribué. C'est là qu'on a découvert aussi que nos compatriotes étaient extraordinairement généreux malgré les difficultés qu'on a pour vivre en France aussi.
Oui, parce qu'on voit que ce sont à la fois des sommes assez raisonnables, sur quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, mais qui ont un impact direct sur l'action.
Immense. Là-bas, 1 euro est multiplié par 10. Un euro, c'est un impact hallucinant là-bas. On a restauré un lavoir communautaire d'une des plus belles villes du pays qui s'appelle Fianarantsoa, et ça a changé la vie de 50 lavandières dont le lavoir menaçait de s'écrouler sur leur tête. Mmh. Et notre charrette est passée par là. Il fallait juste 2600 euros pour démonter le lavoir et le reconstruire. C'est juste incroyable, parce que le pouvoir de l'argent là-bas.
Ou encore, je vois une autre action, 3000 euros donnés à la Fondation Le Marchand pour fournir 75 ruches pour tout un village. Alors, quand on sait...
Alors, c'est l'inverse.
Ah, pardon.
C'est la Fondation Le Marchand qui nous a donné 6000 euros justement pour reboiser immense parcelle et de construire des ruches pour des habitants pauvres afin que cette forêt soit génératrice de revenus et pas simplement des sacs de charbon futurs. Oui. Vous voyez, il faut que la forêt, pour qu'elle survive à Mana, apporte des ressources aux gens autres que le charbon.
Oui, excusez-moi, j'ai lu de travers.
Mais
il y a tant d'activités, tant d'actions que vous avez menées qui sont formidables et qui sont vraiment à l'échelle locale et qui transforment la vie des villageois, des populations locales et qui, comme vous le rappeliez, les gens de France se rendent compte directement que un euro donné, ça transforme quelque chose sur place. C'est pas un chèque anonyme, on ne sait pas trop où l'argent va.
Ah
ben là,
non,
vous donnez vraiment.
Ce qu'on a donné, nous, arrivé en direct, sans intermédiaire, ça passait même pas par notre compte à nous. Ça allait directement sur le compte des récipiendaires depuis les plateformes de financement participatif. Et nous, on était juste les go-between, les raconteurs les intermédiaires qui racontaient la belle histoire. Et comme elle était belle, cette histoire, les gens avaient confiance parce qu'ils voyaient tout de suite que c'était réalisé. Deux mois plus tard, quand on a livré un rayon X aux filles de la charité de Farah Fangan qui s'occupe d'une centaine de lépreux parce que le rayon X était en rade, trois mois plus tard on avait le rayon X et six mois plus tard il était installé. Donc il fonctionnait. Donc là ça coûtait autre chose, là c'était 35 000 euros, c'est une autre paire de manches. Mais si on m'avait dit avant de partir que j'allais acheter un rayon X pour l'installer dans une léproserie, j'y aurais jamais cru. D'ailleurs je m'en serais jamais tout senti capable. Mais c'est arrivé. Voilà. Et à la fin du voyage on a été jusqu'à construire une maternité. Là encore, ça a coûté 50 000 euros. Si on m'avait dit que je lèverais les fonds, que je trouverais les entrepreneurs, les bâtisseurs, les médecins, les machines et tout, pour construire une maternité dans une ville où les femmes mouraient en couche ou de façon abominable parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure pour les accueillir, j'y aurais pas cru non plus. Et ça a été ça, cette charrette, elle a été le véhicule de notre bonne volonté, mais aussi de la générosité de tous les gens qui s'y sont associés, ainsi que les Malgaches, qui ont tout de suite vu que cette charrette leur faisait du bien. Elle est devenue très populaire à Madagascar, parce que nos films passaient à la télévision simultanément. Et donc les Malgaches la voyaient passer avec énormément de bienveillance. Et ça, pour nous, c'était quelque chose c'était quand même, là encore, un supplément d'âme dans notre histoire, d'être bien accueillis. Alors que vous savez que la France n'a pas laissé que des bons souvenirs à Madagascar. Là, on était bienvenus. On était, parce qu'on allait lentement, c'est au rythme du pays Mouramour, avec le respect de la culture, on parlait la langue, on s'était réellement inculturé, c'est-à-dire qu'on avait pris les us et coutumes des gens, on mangeait comme eux, on pensait comme eux, on vivait comme eux, et ils nous en savaient gré.
Et c'est ça qui est formidable dans ce voyage. Alors j'imagine que quand vous rentrez, vous témoignez, comme vous le faites en ce moment, vous faites de nombreuses rencontres, dédicaces, notamment en région parisienne, à Paris, si j'ai bien vu sur votre site. Mais il y a l'appel du large, non ? Vous avez envie maintenant d'y retourner ?
Alors, on avait envie de retourner à Madagascar, mais malheureusement, le Covid nous en a empêchés. Retourner marcher avec notre charrette et les touristes qui pouvaient vivre un peu de Madatrek, parce que c'est le nom de notre histoire.
Oui.
Là, je viens de sortir le tome 2 de notre histoire et je vais me replonger dans l'écriture du tome 3. Donc, il n'y aura pas d'aventure dans un autre pays avant encore quelques années, puisque j'ai toujours pas fini d'écrire le récit. Là, je suis arrivé à Tamatav à la fin du tome 2. Et donc, on va partir vers le nord, Diego, et retourner à Majinga et retour à Tana. Ça va être l'objet du tome 3 qui va m'occuper encore pendant un an. Et qui sait si on ne réussira pas à repartir avec cette charrette, dont la finalité est d'aller reboiser une forêt qui s'appelle la forêt de Vouéboul, qui est une forêt qu'on essaie de sauver avec un couple extraordinaire qui s'appelle le couple de Camp, Angélique et Stéphane de Camp. La forêt de Vouéboul qui contient le plus petit caméléon du monde et la plus petite grenouille du monde. C'est pas très loin de Tana, la capitale de Madagascar, à 200 km. C'est l'endroit le plus proche où il y a la côte, sur la côte est, sur le canal des Pangalanes. Et là, cette forêt, on essaie de les aider à la reboiser et à la reforester, ce qui sont deux choses distinctes d'ailleurs, au bénéfice des populations locales, parce qu'elles reculent, elles reculent, et le jour où elle aura disparu, ces deux espèces microscopiques dont je vous ai parlé, disparaîtront avec elles. Donc c'est un bras de fer contre ces forces du mal qui veulent, qui ils veulent anéantir les dernières forêts primaires de Madagascar. Donc voilà, j'espère que dans les deux années qui viennent, j'aurai à la fois fini de raconter mon histoire avec le tome 3 et que j'aurai réussi à retourner à Madagascar avec des touristes, ma charrette, mes zébus et nos gars, puisqu'on avait deux malgaches avec nous, deux employés malgaches, des bouviers qui nous ont aidés à faire ce grand tour.
Et en attendant, on peut aussi vous retrouver, si je ne dis pas de bêtises, à Morlaix, le 4, pour le festival des Globetrotters. Là encore, une rencontre avec votre public.
Ah, pour nos amis bretons, bah oui, la semaine prochaine, on sera à Morlaix, samedi prochain, pour diffuser un film. Et puis, sinon, venez voir sur notre site madatrek.com ou sur les réseaux Madatrek les prochaines conférences qui auront lieu. Comme je vis un peu au jour le jour, j'ai du mal à me projeter dans le futur.
Et aussi, en librairie, retrouvez vos précédents ouvrages et une vraie invitation au voyage en vous lisant et en découvrant donc tous vos films et vos actions qu'on peut continuer à financer en vous contactant, en découvrant tout ce que vous proposez. Vous
oui, êtes sûr... on a créé une association qui s'appelle Madatrek se rend utile, qui est juste un compte d'hébergement, de transit entre les donateurs et les récipiendaires à Madagascar. Il y a zéro frais, évidemment, et il y a zéro détournement, vous imaginez bien. Et donc, on soutient encore un foyer pour handicapés qui est à Vaux-Ipen avec un travail incroyable, qui bénéficie à 12 000 personnes. On soutient de temps en temps le père Pedro, Atana aussi, qui est une œuvre incroyable, et une cantine scolaire, une cantine pour enfants des rues, pardon, à Fianarantsoa. Donc on reçoit souvent des donations pour ces choses-là qui ont été vues dans nos films, nos documentaires qui sont visibles sur Disney+, je crois, ou en DVD chez nous, pour ceux que ça intéresse. On peut les acquérir, les 16 films de 52 minutes. Donc on est toujours très actif et lié à Madagascar en envoyant toujours des sous aux gens qu'on a rencontrés et en quels on a entièrement confiance.
C'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Alexandre Poussin, c'est que vous ayez le temps de faire tous ces projets, qu'à Madagascar, la vie soit un peu plus douce malgré le changement climatique, la pression foncière et des géants qui veulent un peu plus...
Oui, surtout le prix des avions qui est beaucoup trop cher. On ne peut plus aller à Madagascar facilement. Et 30% des Malgaches ne vivent que du tourisme. Alors si on ne va pas les voir, la nature souffre. C'est ça, des grands paradoxes par rapport aux autres pays dans le monde. C'est qu'à Madagascar, on a besoin du tourisme pour défendre la nature. Là où, dans d'autres pays, le tourisme détruit la nature. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, là, c'est...
Là, c'est une situation inverse où il y a 55 parcs à Madagascar qui sont des joyaux avec un endémisme et des animaux extraordinaires. Si on ne va pas les voir, ils vont disparaître. Parce que il faut que le tourisme apporte de l'argent aux gens qui protègent les forêts. Et les gardes forestiers, il faut les financer, vous voyez. Et si le tourisme vertueux ne va pas les voir, et ces forêts sont condamnées.
Eh bien... C'est noté. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir, on peut découvrir vos ouvrages. Madatrek, les deux premiers tomes en librairie et sur votre site madatrek.com. On peut aussi découvrir vos films et votre travail formidable sur le site madatrek.com. On salue Alexandre, votre femme, Sonia, les enfants, et on vous souhaite de très belles choses à venir ici ou dans un pays comme Madagascar. À bientôt et merci encore pour tout.
Merci. Mon chien Mario qui vient de Madagascar est devant moi là et il bat la queue de contentement et vous salue aussi.
Eh bien c'est très gentil, bisous à lui, au revoir.
Merci
au revoir.
Véloum. I got issues I try to ignore, but sometimes they keep on knocking at my door, and I'm not trying to fight them anymore. What happened yesterday is dead and gone. Even if I hit the ground, I'ma keep my head up in the clouds. I'm done with holding on, 'cause I got that feeling that only comes on days like this. To me, it's easiest to hide.
ground. I'ma keep my head up in the clouds. I'm done with holding on. Cause I got that feeling that only comes on days like this. Days like this.
Vous êtes à l'écoute de Mission Verte, alors dans l'agenda, n'oubliez pas que samedi à partir de 14h, il y a le Ripper Café à Enghien-les-Bains. C'est votre rendez-vous trimestriel qui revient donc ce samedi pour sa 22e édition, c'est de 14h à 18h. Alors ici vous pourrez faire venir, faire réparer vos vélos, petits électroménagers, domestiques, jouets cassés ou vêtements abîmés. L'association vous propose de diagnostiquer les problèmes sur ces appareils, que ce soit des appareils numériques, électriques. C'est pôle de réparation soutenu par des bénévoles professionnels ou non qui échangeront avec vous pour solutionner tous vos problèmes. C'est aussi un lieu de partage qui devrait vous permettre, pourquoi pas, de devenir réparateur à votre tour. À travers cet événement, vous pourrez aussi discuter avec les bénévoles sur les enjeux du développement durable. Rappelons que cet événement, c'est aussi l'occasion d'en savoir plus sur le centre CCFV, le centre de François Villon. C'est dans la grande salle que vous serez accueillis. C'est pour tout le monde, hein. L'entrée est libre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site ccfv.fr. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Mission Verte. Alors, le mot de la semaine, c'est bisous. Eh oui, la méthode bisous. Connaissez-vous cette dernière? Eh bien, c'est pour éviter de céder aux achats compulsifs, notamment pendant les soldes, on y est. Et pour cela, il suffit de suivre cette méthode. À chaque lettre du mot correspond une question à se poser avant de succomber. B, c'est comme besoin. Demandez-vous si votre prochain achat est réellement nécessaire et du coup, si vous en avez besoin. Bisous, c'est B-I-I, comme immédiat. Vous savez, on se demande si vraiment on ne peut pas attendre avant d'avoir cet objet. Si la réponse est non, alors c'est sauter le pas. Si rien ne presse et qu'il s'agit d'une pulsion et non d'un achat nécessaire. S de bisous comme S comme semblable pour ne pas accumuler. On se pose cette question de savoir si eh bien, cet objet qu'on voulait, on l'aurait pas déjà en double. O comme origine, vous savez, il faut acheter un peu plus responsable. Alors, on n'oublie pas de se renseigner sur sa provenance, d'où vient cet objet, et puis évidemment, privilégier la qualité à la quantité. Et enfin, le U de bisous. Alors là, c'est pour utile, vous savez. Il faut réfléchir à l'utilité de cet objet avant de l'acquérir. Privilégiez surtout la seconde main ou la réparation d'objets cassés. Vous l'avez compris, c'est important. Et cette méthode de bisous, donc, à garder en tête lorsque vous faites vos courses.
Quero ser meu bem. s'est envolé, juste une nuit.
Une rêverie solitaire, convulsée, qu'est douce.
Ne me laisse pas, non va embora, non déchimi, je te sens partir
ailleurs.
Ne me laisse pas,
mon cœur,
non va embora,
de Paris à Salvador,
non déchimi,
meu amor,
je te sens partir
commencer ailleurs. Mon cœur,
de Paris à Salvador, meu amor. Commencer ailleurs, pour mon cœur de Paris à Salvador,
pour
mes amours.
Je te sens partir, ne me laisse pas. Non va embora, non déchire.
Je te sens partir
ailleurs,
pour
mon cœur de Paris à Salvador,
pour
mes amours.
Je te sens partir.
Vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM Radio dans la rubrique Le saviez-vous ? Ne jetez plus vos bouteilles en plastique, elles peuvent en effet servir de plusieurs façons, notamment au jardin, pour éloigner les rongeurs, rats et autres taupes. Pour cela, il suffit de placer dans chaque trou creusé par ces rongeurs une bouteille en plastique vide, sans son bouchon, et dont le bas du contenant est ouvert. Le vent va entrer au sein de la bouteille et diffuser un son strident dans les galeries. Les nuisibles qui sont sous terre ne supporteraient pas cette agression sonore et partiraient. Autre utilisation de cette bouteille en plastique au jardin, c'est créer notamment un arrosoir automatique. Pour cela, on se munit d'une bouteille en plastique, on y fait des petits trous à l'aide d'une aiguille chauffée, on enterre cette bouteille de manière à ce qu'il n'y ait que le goulot qui dépasse. On la remplit d'eau, la terre sera arrosée en continu automatiquement. On peut également placer un cône d'arrosage sur le goulot pour retrouver la bouteille et enfin créer un arrosoir goutte à goutte. Bref, vous l'avez compris, la bouteille peut aussi avoir une seconde vie. Vous êtes toujours à l'écoute d'IDFM Radio. On va se quitter en se rappelant la citation de Charles Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On va méditer dessus et on va partir en librairie ou sur internet découvrir le parcours d'Alexandre Poussin, l'auteur qui a été notre invité en début d'émission. N'oubliez pas le site madatrek.com pour tout savoir sur les actions menées par Alexandre et sa femme Sonia à Madagascar et ailleurs. C'est formidable. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une invitée, Lucille Tomaso, la présidente des Thés à Coudre, une association de couture du Val d'Oise. Et en attendant, je vous invite à rester à l'antenne avec Sabrina et son émission Au cœur de l'Asso. Merci encore pour votre fidélité. Merci à Francky pour la technique. À très vite sur les ondes d'IDFM Radio. N'oubliez pas le podcast sur idfm98.fr. Au revoir.